Cinérama.
Cette nuit, notre piston émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à foutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour, la différence entre le Cinérama de la saison dernière et ce Cinérama, c'est qu'on a changé de minutage ces 30 minutes cette année. Et puis, par contre, on est revenu au précédent horaire, parce qu'on avait commencé la première émission à midi, et maintenant c'est midi 30 avec une rediff à 17h30.
Ouais, c'est un peu trop tôt, midi.
Ceci étant dit officiellement, puisqu'on ne l'avait pas encore dit. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, un cinérama un peu spécial, puisqu'on va parler d'Astérix et Obélix pendant tout... Non, enfin, voilà. De quoi allons-nous parler ?
Moi, je vais vous parler d'un film nul, Paperboy, et d'un film encore plus nul, Star 80.
Voilà. Et voilà. Bon, ben voilà, c'est dit.
Et moi, donc, je vais vous parler du théâtre bizarre qui va être projeté demain dans le cadre de la troisième saison de...
L'absurde séance,
voilà. Utopia.
Que tu co-diriges, en fait.
Je présente, on va dire.
Ah, tu présentes.
Et je participe aussi parfois au choix des films, pas tout le temps.
Et puis moi, je vous parlerai de César doit mourir. C'est le dernier film des frères Taviani. Ce film a remporté l'Ours d'or à Berlin cette année.
Cinérama. Sur Divergence FM.
Et on commence tout de suite donc avec Paperboy. Alors le réalisateur Lee Daniels revient après son premier film, le remarqué Precious, une sympathique comédie, rappelez-vous, dans laquelle une ado analphabète et pauvre, esclavagée par sa mère et violée par son père, découvrait qu'elle était enceinte, et sidaïque. Son nouveau film, Paperboy, accepté en compétition officielle à Cannes pour une raison qui m'échappe un peu, et dans la lignée du précédent, c'est-à-dire qu'il consiste en une succession de scènes qui n'ont pas d'autre but que de nous mettre mal à l'aise et de nous infliger des plans d'une laideur sans borne.
C'est qui ça, Jack ?
Je cherche le bureau de Monsieur Ward Johnson du Miami Times.
Je travaille pour le Times.
Mademoiselle Charlotte Bless.
Oh, plus pour longtemps. Hilary et moi allons nous marier. Tout ce qui a pu être écrit sur Hilary Van Wetter dans la presse ou autre est dans ses boîtes. Et notre correspondance intime est dans la boîte du dessous. Je vous remercie de m'aider à sortir Hilary de ce trou infernal.
Organisez pas tout de suite la lune de miel.
Oh.
Nous, on va se battre contre cette sentence et la manière dont elle a été rendue. À propos du meurtre du shérif Cole. Si je comprends bien, le juge a autorisé un témoignage basé sur des preuves qu'il n'a jamais vues.
Ce sont tes journaleux. Ils vont faire quoi pour nous ?
Ils vont te sauver.
Les flics ont trouvé le corps du shérif à 6h du mat. Mais ce qui vous incrimine, c'est surtout la façon dont il a été tué.
Je suis pas le seul à avoir une machette dans le coin.
Que s'est-il passé ?
Il est un peu jeune pour être journaliste.
T'es prête à tout pour sortir ton homme de prison, pas vrai ? Tu ne l'aimes pas ?
T'en sais rien. Hilary n'est pas si mauvais et je ne suis pas si bonne. J'ai une face cachée.
Dis-lui qu'on fait sortir Hilary. Le gouverneur va le gracier.
Approche. On s'en va.
J'ai pas très envie de vivre dans des marais.
L'histoire très confuse, au demeurant et fort mal scénarisée, tourne autour d'une possible erreur judiciaire que des journalistes tentent de révéler, aidée d'une cougar qui est tombée amoureuse de l'accusé. Cette dernière est jouée par Nicole Kidman, le seul atout du film, qui interprète avec masochisme et conviction une pseudo-Brigitte Bardot à la date de péremption bien avancée, en forçant au maximum le contre-emploi. Le film est à l'image de ce personnage, vulgaire en tout point, sans avoir les moyens de sa prétention, avec des images faussement patinées à la manière des films des années 60, inconscient du fait qu'il oscille plutôt entre le rétro bâclé et l'esthétique crypto-gay au lieu de s'inventer un style. Malgré l'ambiance supposée torride distillée à chaque plan, on s'ennuie ferme, vite abruti par un montage inefficace, une musique toujours hors de propos et une trame qui s'éparpille vers des considérations sur le racisme et l'identité sexuelle. De ce florilège de scènes ratées, on arrive à peine à déterminer laquelle est la plus gerbante, mes deux préférées quand même étant celles où l'on éviscère un alligator en plan macro, ainsi que le passage du film où Nicole Kidman fait une fellation virtuelle à un taulard. Bref, tout le film reste dans cette veine, poisseux, sale, dépourvu de sensualité. Enfin, l'homosexualité du réalisateur reste la seule explication de la présence de Zac Efron, qui parle peu et se déshabille beaucoup, chargé d'un rôle central auquel il est incapable de donner la moindre épaisseur. C'est donc finalement sur une overdose de Botox et d'auto-bronzant, élément principal d'un casting de mauvais goût pour un film bancal, que j'ai fini par sortir de la salle, avec la ferme intention d'égorger une vierge pour l'offrir en sacrifice au dieu du cinéma. Dans l'espoir d'effacer de ma mémoire ce ratage total, je ne sais pas ce que tu en penses, Manu.
Ah, c'est un navet. Hein.
Est-ce que toi, tu as tenu jusqu'au bout? Parce que
ah,
moi,
oui,
non.
Oui, j'ai tenu jusqu'au bout. Bon, il y a une scène marrante, c'est la scène des méduses, à la limite. On aurait pu l'appeler l'année des méduses, mais bon. Non, mais c'est un navet.
Où Nicole Kidman lui pisse sur le visage, oui. En fait, parce qu'il s'est fait piquer par une méduse.
Ah oui, bah oui, effectivement, mauvais
bon
goût.
C'est du mauvais goût.
Que
oui.
Du bon goût.
Oui, mais on verra.
D'un bout à l'autre.
C'est Pedro Almodovar qui devait réaliser le film à l'origine. Il avait été intéressé par le projet. Et
ça
paraît-il, le roman est très très bien. Il n'a rien à voir avec le film.
Ouais. Bon, en tout cas, en termes de mauvais goût, on verra qu'avec de théâtres bizarres hein, pour l'absurde séance, ça se tient bien là aussi.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Changeons de registre avec César doit mourir de Paolo Taviani et Vittorio Taviani, bref, des frères Taviani. Il s'agit de l'Ours d'or de la dernière Berlinale, un festival qui, ces dernières années, a donné ses trophées à des films qui ne sont pas forcément bien distribués en France. Alors, pour exemple, Miel du Turc Semi Kaplanoglu a bravement dépassé les 40 000 spectateurs, mais Fausta de Claudia Loza n'y est pas parvenue. Et quand en 2005, le Sud-Africain Marc Dorford May a remporté l'Ours d'or pour son film Carmen, eh bien, combien pensez-vous qu'il est tenté de spectateurs? Donnez une estimation. Hein. Allez, on se presse.
50 000 aussi, non?
Mais non, on n'avait même pas dépassé, à peine dépassé les 40 000.
Allez, 25 000.
17 998 entrées, sachant qu'il y avait deux personnes qui étaient malades ce jour-là, un couple qui n'a pas pu pour atteindre les 18 000. Alors, si dans le palmarès, on compte des Chéreau, des Winterbottom, des Fatih Akin ou encore des Cazavettes, c'est un peu comme Cannes, le prix n'assure pas le succès public. Les Italiens sortent donc un César doit mourir quand les Français sortent un Astérix et Obélix au service de sa majesté. Alors je vous laisse imaginer quel est le plus drôle. Mais l'essentiel n'est pas de rire au cinéma, on peut très bien y arriver dans la vie. Et les frères Taviani l'ont bien compris, non que ce soit des bouts en train en société, mais que ce César doit mourir est avant tout un projet humain avant d'être un divertissement et une pompe à fric. Alors nous sommes d'abord sur scène, voilà Brutus qui veut qu'on le tue. La tragédie se déroule sous nos yeux, avec les moyens du bord, un effort de costume, mais des glaives rikiki en bois. Les lumières s'éteignent, les applaudissements se font fort, c'est une pellicule couleur. Et puis hop, on bascule dans un monde noir et blanc et la caméra s'invite dans une prison. Ces comédiens rentrent dans leur cellule quand certains taulards soulèvent de la fonte. Eh bien eux, ils ont décidé de jouer une pièce de théâtre. Les Taviani nous immergent dans la création de cette pièce, mais ce n'est ni tout à fait un documentaire, ni tout à fait une fiction, c'est un entre-deux, parce qu'on imagine, vu le cadre et la qualité de l'image, le temps qu'ont pu mettre les deux frères à fabriquer leur film. L'idée de César doit mourir est venue en assistant à la précédente pièce de ces détenus qui interprétaient Dante. Les frères ont proposé alors de mettre en scène la pièce de Shakespeare et de filmer ce qui émergeait de ce travail. Une ambition prétendue, celle de César, une menace pour la République romaine, des complots, des crimes, de l'honneur, des trahisons, des notions que les prisonniers ont tout le temps de réfléchir dans leurs cellules. Des thèmes de la pièce qui peuvent répondre, même à leur histoire, on apprend la peine de chaque détenu choisi et les motifs de leur incarcération. Et puisque le texte est adapté en italien et mieux encore, chaque prisonnier parle avec le dialecte de sa région. Le mot « vendetta » est lâché un moment, un mot qui doit trotter dans la tête donc de certains de ces taulards et des Italiens qui vivent avec la mafia depuis de nombreuses années. Le film va lentement, mais sûrement. Il y a beaucoup de textes du Shakespeare, hein, traduits et condensés. On ne voit rien des rituels de la prison du quotidien. Le film n'est pas sur le lieu, mais sur les hommes qui l'habitent. On voit le travail donc, de ces prisonniers qui répètent dans leurs cellules. Alors ils vont même plus loin, puisqu'ils déambulent dans l'établissement sans relâche, comme si se frotter au théâtre leur donnait plus d'espace. La pièce de Shakespeare contient des questions morales et politiques. Un prisonnier récitant son texte seul dans la cour soumet alors les questions à ses compagnons restés dans les cellules, et ceux-ci réagissent, mais bon, ça doit être une pure fiction. On voit du théâtre, mais c'est bien du cinéma qui est à l'œuvre, ça n'est qu'un atelier théâtral, mais les frères Taviani usent du cadre, de la couleur ou de son absence, de la lumière et du son pour nous faire vivre le chemin que font ces hommes condamnés pour certains à perpétuité. Alors la scène finale d'ailleurs est en rapport avec cette perpétuité, et bon, moi je l'ai trouvée un peu trop éloquente, le film me tient en moins d'1h20, finalement, donc mais on s'en contente, hein. C'est la portion congrue. Trop aurait été de la gourmandise. Donc César doit mourir de Paolo Taviani et de Vittorio Taviani est projeté actuellement au Diagonale.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule,
Cinérama,
je suis allergique,
sur Divergence FM.
Donc l'absurde séance redémarre pour une troisième année à Montpellier au cinéma Utopia, avec donc la présentation de demain à 20h30 de The Théâtre Bizarre. On aura droit donc avec un invité de marque, le célébrissime, enfin pour moi, hein, Jean-Pierre Putters, qui était en fait le fondateur du magazine Mad Movies, et ici il officie en tant que coproducteur. Genre casse-gueule par excellence, voué le plus souvent à l'échec en raison d'un manque d'unité et de cohérence, film à sketch, tout genre confondu, semblait un peu avoir disparu des écrans. Après cette année, le pitoyable d'ailleurs Les Infidèles, avec son humour un peu bas du front, une petite production venue de nulle part vient nous rappeler que l'on peut, avec trois bouts de ficelle et un brin d'imagination, innover dans un genre cloisonné. Coproduction franco-américaine, The Théâtre Bizarre a réussi l'exploit de bénéficier d'une sortie en salle. Vu le maigre budget, je crois que c'est en dessous d'1 million d'euros. Financé d'ailleurs en partie par Metaluna, la petite boîte passionnée créée donc par Fabrice Lambeau et Jean-Pierre Putters, ce film à sketch horrifique manque d'unité, mais demeure intriguant de bout en bout. Afin de relier donc ces histoires sanglantes et morbides, Udo Kier, grimé en marionnette, introduit chaque récit dans un théâtre avec des métaphores macabres et poétiques. Ces interludes, signés Jeremy Kasten, sont formellement magnifiques et lorgnent du côté de l'épouvante transalpine. On pense à Mario Bava, mais aussi au Bloody Bird de Michel Soavi. Une étrangeté et un sens plastique séduisent immédiatement. Qualité, malheureusement, qu'on ne retrouve pas dans toutes les histoires contées.
Mon pauvre Choupinet, tu as commenté toute la nuit une fois que l'opération a été terminée. Je n'aurais jamais cru voir le jour où le grand Denis perd ses moyens juste avant le match le plus important de la saison. Tu sais quoi? J'aurais bien voulu te l'enregistrer, mais bon. Tu sais comme je suis. C'est toi? Oh, et toi, le grand spécialiste de la télécommande. Tu n'es même pas capable de monter correctement une étagère. Alors je ne te parle même pas de monter ta femme. Mais quand il s'agit de la télécommande, Denis est un professionnel major de sa promo. Tu as envie de parler? Oui, c'est vrai. D'accord, mais si je t'enlève ça, tu me jures de ne pas me cracher dessus comme la dernière fois. Tu n'es pas très doué quand il s'agit de tenir une promesse, Denis. Tu ne pensais qu'avec ce monstre cyclope qui te gênait entre les jambes.
Elle a raison hein, de dire qu'il gênait le monstre cyclope, oui. Puisqu'il est, c'est un homme émasculé. Hein.
Voilà. Alors cet extrait est issu donc du Wet Dream de Tom Savini, en fait, hein. Le roi des effets spéciaux d'ailleurs. Tom Savini, c'est Vendredi 13, Zombie et des tas d'autres. Donc pourquoi réaliser un long métrage sous forme de sketch? Quelle unité semble se dessiner après la projection? En apparence, l'ensemble paraît quand même un peu fourre-tout. On retiendra malgré tout une propension à traiter de la destruction du couple par des forces maléfiques, une attirance pour le sexe mêlée à des effets gore, et surtout un hommage appuyé, certes, mais sincère, au grand guignol avec ses récits extrêmes, viscérales et pervers. Bref, la volonté de vouloir offrir, à la manière du Cronenberg de la grande époque, de l'épouvante adulte est l'un des points positifs de The Théâtre Bizarre. Dans le détail, le résultat est moins probant. Passons rapidement sur les segments les plus faibles. I Love You de Buddy Giovanni Ninazzo. J'ai du mal là à le prononcer. C'est une sorte de drame conjugal trash du Bergman Gore qui vaut essentiellement pour la tenue de l'interprétation. Il y a un excellent André Hennings. La mise en scène, par contre, souffre d'une photographie surexposée et d'un montage confus. Sweet de David Gregory m'a littéralement écœuré. Pensé comme un mix trash entre la grande bouffe de Ferreri et le cinéma organique de Cronenberg, cette orgie visuelle m'a rappelé à quel point je pouvais être sensible à la vision de la nourriture sur un écran. Les membres sectionnés, les geysers de sang, la tripaille à l'air ne me choquent pas, mais la bouffe écrasée sur des visages congestionnés me provoque des haut-le-cœur, en fait. Voilà. Ensuite, The Mother of Tord, de ce mystique de Richard Stanley, est un hommage sympathique mais un peu foireux à l'univers de Lovecraft. C'est le premier segment que tu as vu, Vincent. Et,
j'ai vu voilà. aussi le deuxième.
T'as vu le deuxième aussi, celui que j'ai cité en premier. Oui, voilà.
Qui est raté. Ouais.
Donc celui de Richard Stanley est amusant mais assez raté, je trouve. Il vaut pour la prestation de Catriona McColl, qui était une actrice de cinéma bis des années 70. Donc ça m'a fait plaisir de la revoir. Alors, il y a aussi, dans le genre un peu conte de la crypte, l'étrange Wet Dreams de Tom Savini, dont on a entendu l'extrait tout à l'heure, qui est un délire freudien, sexe et gore, dans lequel apparaît Debbie Ronchon, une scream girl culte des années 80. Le film se clôt par un pastiche christique de la fameuse scène avec les apôtres. Expérimental et viscéral, Vision Stein provoque un certain malaise. L'approche frontale du sujet, une junkie se nourrit de la vie d'êtres malheureux, n'est pas la première qualité de ce petit film maîtrisé, mais franchement dérangeant. Mais le meilleur, en fait, la cerise sur le gâteau, vient d'un film qui est totalement hors sujet et qui n'est absolument pas fantastique. Il s'appelle The Accident. C'est le meilleur segment de The Théâtre Bizarre. Pas de fantastique, de cul ou d'horreur graphique, mais une réflexion émouvante sur la mort vue à travers le regard mélancolique d'une petite fille. Douglas Buck, loin des provocations électrisantes de son Family Portrait, une trilogie américaine, signe là un merveilleux court-métrage sensoriel et poétique sur la découverte de la mort. D'ailleurs, vivement que Douglas Buck retourne au long-métrage pour nous faire d'ailleurs oublier son remake raté de Sisters. Voilà, donc c'est demain soir à 20h30. Il y aura donc un quiz avec des DVD à gagner et puis la présence donc de Jean-Pierre Putters. C'est à 20h30 au cinéma Utopia.
Je pense qu'il y aura plein de personnes intéressées, hein, parce que le fondateur de Mad Movies, c'est pas rien quand même.
Non, il continue en plus à œuvrer dans Mad Movies, puisqu'il fait une anthologie de A à Z de tous les films. Il répertorie tous les films fantastiques qui s'en approchent de près ou de loin. Et c'est un personnage assez mythique pour les fans de fantastique.
J'ai une question, c'est quoi une Scream Girl ?
Une Scream Girl, c'est des filles qui apparaissent dans les films d'horreur.
Juste
pour crier ou se dévêtir. C'est tout.
Un métier intéressant.
On leur demande pas autre chose. Ou se faire tuer.
D'accord.
Voilà.
Et là, en l'occurrence, dans de Théâtre Bizarre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles dénudées. Alors, c'est vrai que ça tourne autour du coup. Moi, j'ai vu que les deux premiers segments, mais ça m'a suffi. Parce que je suis pas forcément adepte de ce genre. Mais je trouvais ça joué péniblement quand même.
Oui. Mais c'est pas les. Mais c'est, déjà, c'est pari, compte parmi les moins bons de tous. Hein. Et c'est vrai que c'est très très inégal l'ensemble. Mais c'est un peu le problème aussi des films à sketch quand on demande à 7 réalisateurs différents de faire ce qu'ils veulent. En plus, là, ils n'ont eu aucune contrainte, à part le budget, autant dans les sujets choisis que d'un point de vue formel, puisque l'équipe est différente à chaque fois. Donc il y a un manque d'unité. Il y a un manque d'unité, c'est un peu le défaut de ce type de film.
Je crois que dans le premier segment, c'est tourné dans l'Aude.
C'est dans le sud de la France. Voilà. Hein,
d'accord.
Oui.
Et donc, production
franco-américaine et canadienne aussi.
Donc c'est demain. Donc la première séance de l'absurde séance à l'Utopia, à 20h30 avec un invité et des cadeaux à gagner.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie. Hein.
Sur Divergence FM.
Et on passe enfin à Star 80.
Messieurs Richer et Miller, ça fait 20 ans que vous me baladez. Nous vous avons suivi dans votre palais de la VHS, juste avant l'arrivée du DVD. Dans votre boutique Bebop, juste avant l'arrivée du GSM. Dites-moi, vous n'avez pas une nouvelle idée pour être bien sûr d'être à côté de la plaque encore une fois?
Là, on a inventé la machine à remonter le temps. Les années 80.
Les années 80.
Les vrais chanteurs des années 80. Voilà, on les a contactés un par un.
On parle de nous là, stars des années 80. Avec Émile Image, Peter Sloan, Début de soirée, Jean-Pierre Madère, Sabrina, Lio, Cookie Lindler, Jean-Luc Lahaye, Jeanne Masse, Gilbert Montagnier, etc, etc, etc. C'est super.
Ouais, super, à part qu'il n'y a même pas mon nom.
Mais si, là, regarde, etc.
Si on nous avait dit qu'on finirait au Zénith...
Attends, mais le Zénith, c'est pas la fin de l'histoire, Antoine.
À quoi tu penses?
Stade de France.
Voilà, j'abrège vos souffrances. Alors, Star 80, donc, c'est la nouvelle comédie taillée pour cartonner, réalisée par Thomas Langman, producteur de son état, notamment de The Artist, souvenez-vous, qui se découvre à présent des velléités artistiques. Rappelons tout de même qu'il avait déjà co-réalisé Astérix aux Jeux Olympiques avec le succès qu'on connaît, ce qui ne l'a visiblement pas empêché de rempiler pour répondre à l'appel du tiroir caisse. Si ils sont chose commune à Hollywood, les films de producteurs en France étaient jusqu'à présent plutôt rares, et heureusement. Mais Thomas Langman entend nous prouver qu'on n'a pas besoin de s'embarrasser d'un artiste lorsque l'on sait fabriquer soi-même un film qui ramènera des millions. Et il nous donne avec son nouveau chef-d'œuvre un véritable et magistral cours de cinéma. Premièrement, oubliez le montage, la mise en scène, le scénario et les dialogues. Lorsque vous êtes le fils de Claude Berry, vous n'avez pas besoin de savoir maîtriser ces vulgaires techniques de cinéma. Ayant davantage fréquenté le Fouquet's que les bancs de la Fémis et plus accro à la cocaïne qu'aux films d'auteur, Langman nous prouve qu'il est un autodidacte d'un genre nouveau. Deuxièmement, choisissez un sujet qui provoquera un engouement populaire. Par exemple, la tournée faite par les anciennes stars de la chanson des années 80. Vous pouvez ainsi espérer écouler quelques millions de BO, en plus du placement de produits que vous induirez dans votre film avec la discrétion qui caractérise les plus grands du 7e art. Troisièmement, pour réaliser un film qui marche, il vous faut choisir des acteurs ayant un fort quotient sympathie. Par exemple, Richard Anconina et Patrick Timsit. Tant pis s'ils ont l'air vieux, alcooliques, profondément déprimés dans le film. Le simple fait de les voir à l'écran fera croire aux spectateurs qu'ils se trouvent devant une comédie enlevée et hilarante, alors que les comédiens eux-mêmes n'ont pas l'air de savoir pourquoi ils sont là. Ajoutez à cela la caution succès du film, de vrais ex-stars des années 80. Si leur enthousiasme est palpable, leur talent, lui, l'est beaucoup moins. On pourra constater ici qu'ils n'ont pas fait le conservatoire, ni de musique, ni de théâtre. Mais qu'importe, qu'ils jouent comme des moules défraîchis et qu'ils aient si peu de charisme que l'on croirait un casting de Secret Story version senior, le public de Quinquagénaire sera ravi de retrouver ses idoles, de gober de l'émotion au rabais et de rire à l'humour TF1. Quatrièmement, ne vous encombrez pas d'effets spéciaux. Comme disait un réalisateur que je connais fort bien, le public est con, alors on va quand même pas faire d'efforts pour lui. Vous pouvez donc créer un faux Stade de France en images de synthèse digne des décors de Wallace et Gromit. Les spectateurs n'y verront que du feu et vous pourrez garder votre budget pour des dépenses, plus essentielles comme le brushing de Jean-Luc Lahaye. Et pour finir, ce cours sur la réalisation d'un film à succès, un dernier conseil, soignez votre générique de fin. Star 80 s'achève ainsi sur un karaoké qui vous fera quitter la salle en chantant l'inépuisable tube « C'est l'amour », ce qui, pour ma part, m'a plutôt donné envie de conclure « C'est de la merde ». Voilà, amusez-vous bien si vous voulez y aller, je ne vous retiens pas. Mais je vous déconseille quand même vivement.
Oui, on a bien compris. Je pense que le qualificatif « merde » correspond assez bien.
Moi, j'ai trouvé ma pire bouse de l'année 2012. Voilà, déjà, je l'ai trouvé et à mon avis, même en 2013... personne, enfin rien, aucun film ne pourra dépasser Star 80. Hein.
Star 82
Peut-être. Ou Star 90, hein, je pense qu'il y aura une suite. D'ailleurs, Langman a déclaré dans l'Express à ce sujet que c'était en fait une sorte de bronzé en fait, dans les années 80, enfin, dans le monde de la musique. Ça donne envie quand même.
Oui, ça donne envie, mais il s'attaque à plus gros qu'il ne peut surpasser. Et en revanche, bon, moi, je n'ai pas assisté à cette projection presse, hein, parce que tu l'avais vu, il sort aujourd'hui. Tu l'as vu
en fallait qu'il n'y en ait qu'un seul qui se sacrifie.
Mais j'ai vu la bande-annonce et je trouve que parmi tous les acteurs, c'est Jeanne Masse qui s'en tire le mieux.
Exactement, c'est exactement ça. C'est la seule, en fait, qui joue juste... Bon, après, elle a deux phrases environ.
Ah bon, enfin, j'ai vu les deux phrases.
Elle a une scène où elle joue et une scène où elle chante, mais c'est vrai que le peu de phrases qu'elle a à dire, ma foi, c'est la seule qui joue juste. Peut-être une future carrière qui s'annonce, qui sait.
Et Sabrina, elle ressemble à quoi?
Bah, pas grand-chose, à un homme. En fait. Elle ressemble à un homme.
Avec une forte poitrine, voilà.
Enfin. Oui.
Et sinon, oui, donc j'avais eu quelques infos, hein, sur cette production. Bon, c'est clairement un divertissement qui fait appel à la nostalgie et ainsi de suite. Ça repose sur rien de cinématographique. Et donc l'ingé son, qui a participé à ce tournage, a participé à deux tournages en fait. Il y a eu un premier tournage où ils ont tourné des scènes parce qu'ils avaient à peu près une direction. Et c'est en regardant ce qu'ils avaient tourné et en cherchant un peu ce qu'ils pouvaient faire, qu'ils ont ensuite fait un deuxième tournage 2 mois après. Donc en fait, c'est pour dire que vraiment, il n'y avait pas forcément de capitaine à bord au tout début. Hein. C'est vraiment un film de producteur. Et là, on ne peut même pas parler de... Donc, pas de film d'auteur et même pas film de réalisateur. Hein. Voilà. C'était les petits mots bien sentis donc, de Marine sur Star 80 qui sort aujourd'hui.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes?
Et maintenant, eh bien, on va terminer avec un agenda qui concerne essentiellement le Cinémètre, Festival du cinéma méditerranéen, qui commence ce week-end et qui s'achèvera le week-end prochain. Alors, énormément de films, hein, de toute façon, dans ce festival. Je crois qu'il y en a à peu près 220. Alors, on peut parler notamment des avant-premières et ça va commencer donc avec le film de Costa Gavras. Ce sera ce vendredi 26 octobre. Alors, si vous n'avez pas pris vos places, vous n'avez pas de chance hein, parce que tout est complet en fait. Ça marche terriblement bien, hein, ces soirées d'ouverture, sachant qu'en plus, l'acteur principal de ce film de Costa Gavras, Le Capital, ça c'est comme ça que ça s'appelle, eh bien, Gad Elmaleh sera présent. Donc autant dire qu'il y aura forcément beaucoup de monde à crier et à l'applaudir. Voilà. Mais n'empêche que c'est très intéressant.
Et nous serons parmi eux.
Et nous serons, voilà. Mais après, est-ce qu'on va l'applaudir et crier? Je ne sais pas. Mais je te surveillerai, je verrai bien. En tout cas, Costa Gavras sera l'invité de ce festival et il y aura une partie de ses films qui seront projetés. Alors la liste, eh bien, vous la trouverez plus précisément sur le site du Cinémed. Mais on va écouter quand même un petit extrait de Zed. De ces films qui a marqué l'histoire du cinéma.
Une de vos phrases donne beaucoup à réfléchir. En fait, elle commande toute la suite de mon enquête. Je pense que vous êtes communiste.
Moi, Chibou et Yago aussi, vous êtes amis. C'est une phrase qui t'a échappé sûrement, qui me fait penser que tu l'es. Vous comprenez, les riches ont un rhume, plouf, une semaine au lit, nous les pauvres, une fêlure, faut travailler, sinon c'est le cimetière. Et tu n'as pas fini ta phrase parce que tu as compris que tu te trahissais. Mais je déteste les communistes! Je prends
les paroles ne m'intéressent pas, je me déprime! Il n'y a qu'un communiste pour dire ou penser ce genre de phrase.
Je fais partie d'une organisation qui combat les communistes, eux et leurs amis.
Et Yago?
Yago aussi.
Comment s'appelle-t-elle?
Croc, combattant royaliste de l'Occident chrétien. Ah!
Et on entend Jean-Louis Trintignant qui fait le juge dans ce film Z qui sera projeté ce samedi 27 octobre à 14h au Quorum et ce sera présenté par Costa Gavras, ce qui est plutôt pas mal. Alors ensuite, parmi les avant-premières, on en trouvera une autre d'un film français le samedi 27 à 19h. C'est « Comme des frères » de Hugo Gélin. Avec François-Xavier Demaison, Nicolas Duvauchel, qu'on va essayer d'avoir en interview quand même. Hein, Marine, tu le sens, Nicolas ?
Je vais jouer de mes relations.
On verra bien si tire encore la gueule dans ce film, parce que moi, je l'ai souvent vu quand même être...
Ah, toujours.
Oui, c'est... Bon, j'aimerais bien qu'il change de registre un peu, donc ça, c'est des questions que j'ai envie de lui poser, est-ce qu'il n'a pas envie, finalement de changer un peu son jeu. Donc c'est à 19h à l'Opéra Berlioz. Il y aura le repenti de Merzak Alouache, l'Algérien, qui lui aussi sera présent pour présenter son film dimanche 28 octobre à 18h. Et cette fois-ci, ce sera au Diago. Et puis, il y aura Renoir de Gilles Bourdeau avec Michel Bouquet et Vincent Rottier. Excellent Vincent Rottier, excellent Michel Bouquet aussi. Et ça, ce sera à l'Opéra Berlioz le dimanche à 21h. Ensuite, le lundi 29 au Diagonale, il y aura Rangen de Rachik Djanidani. Voilà. Il sera là, hein, le réalisateur. Le mardi 30 octobre à 21h30 au Quorum, il y aura « Mes héros » de Éric Besnard avec Gérard Jugnot. Hein. Alors Gérard Jugnot ne sera pas présent, mais il joue dans le film. Et puis d'autres avant-premières, « Tom le Cancre » de Manuel Pradal, ça sera le mercredi 31 octobre. Et puis voilà, après, bien, on parlera de ces autres avant-premières la semaine prochaine, hein, puisque nous, on sera présents pour ce festival. Alors on va terminer avec un petit hommage. Parce que c'est dur de parler de tout, donc un petit hommage à Jalil Lasper qui sera présent là aussi au festival. Et le film Ressources humaines, excellent film de Laurent Cantet, film français, excellent, qui sera projeté pendant ce festival.
Ouais. Ramasse, ramasse, ramasse. Tu rateras jamais ta mina, c'est ça? Hein? Tu me fais honte, tu comprends? Tu me fais honte, mais c'est pas grave. Parce que la honte, je connais depuis tout petit. La honte d'être ton fils.
La honte d'être le fils d'un ouvrier, puis la honte aujourd'hui d'être un étudiant qui a honte d'être fils d'un ouvrier.
Mais ça, y a pas de quoi avoir honte, hein.
Mais c'est à lui qu'il faut dire ça, c'est pas à moi, c'est lui qui m'a mis ça à la tronche. La honte de sa classe. Je t'ai annoncé une bonne nouvelle, papa. T'es pas viré, t'es mis à la retraite. Et t'es mis à la retraite, c'est pas parce que t'as été un bon ouvrier pendant 30 ans. Ça, c'est une faveur du patron. Un geste qu'il a fait pour moi. Parce que moi, il m'aime bien. Parce que moi, je peux lui parler d'égal à égal avec lui. Ça, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Tu comprends que ça me dégoûte? Mais je sais, je suis injuste. Je sais, je devrais le remercier. Je devrais te remercier, toi et maman, pour tout ce que vous avez fait. Tous les sacrifices. T'as réussi. Ton fils, il est du côté des patrons. Je serai jamais ouvrier. J'aurai un travail intéressant. Je gagnerai de l'argent. J'aurai des responsabilités. J'aurai le pouvoir. Le pouvoir de te parler comme je te parle maintenant. Le pouvoir de te virer si je veux comme on te vire maintenant. Mais t'as honte, toi. T'as honte, ça, tu me l'as foutu, là. Hein ? Je l'aurai là toute ma vie, t'as honte.
Jalil Asper, le film qu'il a fait connaître, Ressources humaines. Jalil Asper sera présent lundi. Il aura une carte blanche, donc il projettera bien les films qu'il aime. Et puis, à noter que ce lundi aussi, il y aura un autre gros monstre du cinéma, enfin, en ce qui me concerne, Bruno Podalides, qui fera la journée du scénario. Très intéressante. Et bien, d'autres infos sur le cinéma, ce sera la semaine prochaine dans Cinérama.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Voilà, ainsi s'achève Cinérama. Donc, la semaine prochaine, même heure.
Oui, pour la semaine prochaine, vous me ferez quelques petits exercices d'articulation, n'est-ce pas? Et on se retrouve dans une semaine.
Ciao.
Ciao.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.